mesdames, messieurs, mes chers amis. On recommande aujourd'hui très souvent le devoir de mémoire. Mais la mémoire ne saurait être séparée de l'intelligence. Nous commémorons aujourd'hui le souvenir des victimes de la Révolution française et plus particulièrement celui des 99 personnes béatifiées le 19 février 1984 et que l'Église invoque depuis cette date sous le nom de martyrs d'Avrillé ou martyrs d'Angers. Mais il ne suffit pas de se souvenir. Il faut encore essayer de comprendre. Nous ne pouvons pas nous contenter de rappeler la mort des martyrs. Nous devons essayer de comprendre pourquoi on les a tués et pourquoi ils ont accepté de mourir. Sur les 99 personnes qui ont été béatifiées en 1984, 84 ont été fusillés dans le parc de la Haie aux Bonshommes, sur le territoire de la commune actuelle d'Avrillé. 15 ont été guillotinés à Angers, place du ralliement. Les fusillés l'ont été en 4 fournées de victimes, le 18 janvier, le 1er février, le 10 février, et le 16 avril 1794. Le premier guillotiné l'a été le 30 octobre 1793 et le dernier le 14 octobre 1794. La terreur était alors à l'ordre du jour. Dois-je vous rappeler que les martyrs d'Angers ou d'Avrillé ne sont pas les seuls martyrs reconnus et béatifiés de la Révolution française. Vous connaissez tous les martyrs des Carmes, les martyrs de Septembre, les martyrs de Laval, béatifiés en 1955. Vous connaissez, bien sûr, les Carmélites de Compiègne, immortalisés par Bernanos. Mais en un sens, nos 99 martyrs d'Angers sont à part. Les martyrs de la Révolution, dont l'Église a jusqu'ici, avait jusqu'en 1984, reconnu la sainteté, étaient dans leur grande majorité des prêtres et des religieuses. Les martyrs d'Avrillé sont dans leur grande majorité des laïcs. Et la plupart de ces laïcs sont des femmes. Pourquoi des femmes? 80 femmes sur 84 laïcs. Pourquoi si peu d'hommes et tant de femmes? Eh bien, d'abord parce que les hommes sont chez les brigands. Ils sont dans l'armée vendéenne. Ou ils sont en train de se battre. Ou bien ils sont déjà morts, tués au combat. Ensuite, parce qu'en cette fin du XVIIIe siècle, la foi la plus vive est souvent celle des femmes. Ce sont elles qui aident les prêtres traqués. Ce sont elles qui confessent le nom de Dieu. Ce sont elles que l'on trouve en majorité dans toutes les manifestations populaires contre l'installation des prêtres intrus et contre la fermeture des églises. Une autre observation que l'on peut faire, et qui n'est pas inutile, est celle-ci. Toute la société est représentée dans ce petit groupe de 99 personnes. Je ne parle pas du clergé, mais on va des nobles jusqu'aux journaliers, en passant par les bourgeois, les fabricants, qui sont les industriels d'alors, les marchands, les maîtres d'école, les médecins, les chirurgiens, qui sont d'ailleurs des chirurgiennes. C'est vraiment un échantillon représentatif de la société du temps et de toutes les catégories professionnelles. Et, comme dans la société du temps, le plus grand nombre est formé de simples gens, comme on disait alors. J'ai compté 54 martyrs, dont les professions indiquées sont paysans ou paysannes, artisans et plus souvent artisanes, ouvriers, plus souvent ouvrières, et servantes. Les plus éprouvés par la persécution religieuse, les victimes les plus nombreuses et les confesseurs de la foi les plus nombreux sont des femmes du simple peuple, comme on disait alors, des femmes qui travaillaient de leur main. Mais la plus grande originalité de ce groupe de 99 est qu'il n'existe pas, si je puis dire. Je veux dire que ces 99 martyrs ne sont pas un groupe réel, mais un groupe artificiel formé, constitué par les postulateurs de la cause. Ils ne se connaissent pas entre eux, sauf exception. Ils ne sont pas morts en même temps, le même jour. Mais alors pourquoi ce groupe ? Voilà ce qui a été fait. Les postulateurs de la cause ont examiné les procédures de milliers de victimes tuées à Angers pendant cette période, et ils ont mis à part les 99 dont les sentences qui prouvaient qu'ils avaient été tués en haine de la foi. Et l'Église, aujourd'hui, les propose en même temps à la vénération des fidèles. Dans la réalité, ils ne se connaissent pas, tout au moins la plupart d'entre eux. Ils sont perdus au milieu d'une foule de victimes, et ce que nous voyons, si nous nous reportons par la pensée en ces temps de la terreur, ce que nous voyons, ce n'est pas le martyr de 99 personnes, mais un grand carnage, une grande tuerie. Et d'ailleurs, il ne serait pas convenable de parler de ces martyrs sans évoquer la mort de ceux qui sont morts avec eux. Il n'y a jamais eu d'évaluation sérieuse du nombre total des victimes de la Révolution française. Pour le clergé, il serait sans doute possible de parvenir à un compte précis qui monterait peut-être à 9000 personnes, prêtres, religieux, religieuses. On a tenté d'évaluer l'effectif total des victimes de la terreur de l'an 2 à Angers. Un érudit du siècle dernier, Godard Fautrier, arrivait à 6000 personnes environ. Mais il ne comptait pas les décès dans les prisons. On a fait une évaluation au sujet de ces décès dans les prisons. On est arrivé au chiffre très précis de 1025 personnes. Il faudrait donc ajouter ce chiffre à celui de Godard Fautrier, et tout cela en un an à peine. Au moment où elle se déroule, la tuerie révolutionnaire, et plus précisément les carnages de Nantes et d'Angers, ont quelque chose de tout à fait inédit. Ce sont des massacres qui n'ont pas de précédent. Je veux dire que c'est la première fois que l'on voit un gouvernement français tuer autant de Français en si peu de temps. On objectera, on objecte toujours, que la révolte était aux portes, et certes elle l'était. On objectera que l'ennemi étranger était aux frontières, mais la monarchie s'était trouvée maintes fois dans des situations analogues, en particulier pendant la guerre de 30 ans, et n'était jamais tombée dans de tels excès répressifs. On peut dire qu'avec les massacres de l'Ouest, nous quittons les temps modernes et nous entrons dans les temps contemporains. Hitler, Staline, Lénine, Staline, Mao, Pol Pot feront mieux, mais il n'est pas du tout exagéré de dire que les massacres de l'Ouest pendant la Révolution préfigurent les grandes exterminations accomplies par les totalitarismes modernes. Les quelques 8000 victimes d'Angers, et plus particulièrement nos martyrs, nous apparaissent comme les premières victimes du despotisme des gouvernements totalitaires contemporains. Vous voudrez bien noter aussi le caractère judiciaire de cet assassinat. C'est un assassinat légal, c'est un assassinat judiciaire. La loi des suspects du 17 septembre 1793, je vous le rappelle, permettait d'arrêter, de condamner tous les individus qui, pour une raison ou pour une autre, passaient pour des opposants, étaient considérés comme suspects. Pour les juger, pour les condamner, avaient été mis en place des tribunaux d'exception, les comités de surveillance révolutionnaire et les commissions militaires. Les comités de surveillance révolutionnaire, qui étaient les émanations des sociétés populaires, il y a des comités à Angers, à Cholet, à Ingrande, à Saumur. Le seul comité révolutionnaire d'Angers fait arrêter 3000 personnes, généralement au cours de perquisitions domiciliaires. 3000 personnes en ville entre juillet 1793 et juillet 1794. Les commissions militaires ont été instituées le 20 mars 1793 pour juger les brigands de la Vendée et les hors-la-loi. C'est la même chose. Les prévenus ne bénéficient devant ces tribunaux d'aucune protection légale. En Anjou, il s'agit de la commission Parrain-Félix du nom de ses deux présidents successifs. Après avoir circulé dans tout le pays, cette commission se fixe, elle circulait avec la guillotine, elle se faisait accompagner de la guillotine, car la guillotine en Anjou est mobile. Elle se fixe, cette commission, avec sa guillotine à Angers en décembre 1793, comité révolutionnaire, commission militaire, ce sont les deux tribunaux qui ont commandé et organisé l'assassinat de plus de 8000 personnes à Angers, et en particulier des 99 martyrs. Condamnés par les tribunaux, ces milliers de personnes sont des victimes, certes, mais ce sont surtout des coupables. Ce sont des coupables. Ce sont des coupables et ce sont des ennemis. Car ce sont les habitants de ce pays maudit, de ce pays des brigands, de ce pays de l'horrible Vendée. Exterminer, écraser totalement cette horrible Vendée, écrivait au général Dambarrière, les mules de Thureau, le comité de salut public. Ces habitants, il faut tous les faire disparaître. Après la déroute de Savenay, en décembre, des milliers de soldats vendéens ont déposé les armes. Les Bleus en font une rafle monstre. On rafle aussi des centaines de femmes et d'enfants. Les aurait-on massacrés avec autant de fureur s'ils n'avaient pas été des Vendéens? Il y a en effet une culpabilité vendéenne, culpabilité générique, culpabilité essentielle qui s'attache à tous les habitants de ce pays, hommes, femmes et enfants, et qui ne vient pas de fautes personnelles, mais de leur nature même de paysans sauvages, d'êtres frustes et fanatiques. Car, pour la philosophie des Lumières, inspiratrice de la Révolution française, tout paysan est un sauvage. C'est Voltaire qui le dit, et si de plus il est un fanatique, c'est-à-dire attaché à sa religion, alors il devient un monstre, il convient de l'anéantir. D'où l'extermination. Les massacres d'Angers se rattachent à cette extermination et s'expliquent de la même manière. Les milliers de victimes d'Angers, dont les 99 martyrs, font partie de cette race abominable. Je reprends une expression qui revient souvent sous la plume des terroristes, cette race abominable dont il faut absolument, je reprends une autre expression, purger la terre. Alors la seule difficulté pour les terroristes, c'est une difficulté d'ordre technique et non moral. Comment tuer beaucoup de monde en si peu de temps et le plus économiquement possible ? C'est un problème d'organisation. Alors la même meilleure solution est vite apparue. La guillotine était trop lente, trop dispendieuse. Il fallait bien une journée entière pour guillotiner 60 à 70 personnes. Et cela coûtait très cher, plusieurs milliers de livres. Il fallait payer le bourreau, les aides du bourreau, l'entretien de la machine, l'accommodement de la machine, comme on disait. C'était faisable à la rigueur pour tuer des personnes riches dont les biens confisqués pouvaient payer les frais. Mais pour les pauvres bougres, et ce sont eux qui représentent la majorité, pour les pauvres bougres qui n'ont rien, la guillotine était inapplicable. C'est pourquoi on envisageait D'abord la noyade et ses carriers, vous le savez, qui inventent ce système économique. Quel torrent révolutionnaire que la Loire, dit-il. Et puis, on trouve que la fusillade, c'est aussi, finalement, assez commode, quoique un peu plus cher. Alors, à Angers, on commence par fusiller les Vendéens prisonniers. Les Vendéens prisonniers qu'on avait enfermés dans la cathédrale d'Angers. Imaginez cette cathédrale, la nuit, pleine de monde, pleine d'hommes, de femmes et d'enfants. Car dans la rafle, on a mêlé, dans la confusion générale, on a mêlé les hommes, les femmes et les enfants. Imaginez tous ces pauvres gens, et nous savons qu'ils avaient quand même la permission d'allumer des feux dans la cathédrale la nuit pour se réchauffer, car nous sommes dans un hiver terriblement froid. Imaginez donc cela, imaginez aussi ces fusillades à partir du 2 décembre. À partir du 2 décembre, on fusille partout, dans Angers et autour d'Angers. On achève à coups de sabre. Ces tueries se passent au port de l'Ancre, à Angers même, à Saint-James, au pont de Cé. Au port de l'Ancre, le massacre a lieu la nuit et les cris des victimes réveillent les habitants horrifiés. Au pont de Cé, on tue près de 2700 personnes après les avoir fait mettre nus et dépouillés de leurs vêtements. À Saint-James, un berger qui gardait son troupeau l'a raconté, on fait mettre les malheureux à genoux, tourner vers la Loire et on les fusille par derrière. Fin décembre, le procédé de la fusillade avait fait ses preuves. Le 12 janvier a lieu la dernière fusillade des ponts de Cé, et ce jour-là éclatent les premières salves d'avriers. Bientôt vont mourir les premiers martyrs. Alors est-ce à dire que dans cette foule immense des victimes de décembre et de janvier, les béatifiés, les 99, méritent seuls l'appellation de martyrs? Assurément non. Parmi les pauvres gens fusillés en décembre, il y a eu certainement des martyrs, et parmi les quelques 2000 qui vont être fusillés à Avrier ou guillotinés place du ralliement, il y aura certainement d'autres martyrs que nos 99. Seulement nous n'avons pas, les postulateurs de la cause, entre autres le chanoine Tricoire, n'ont pas eu sous la main les documents qui permettaient de le prouver. Beaucoup d'interrogatoires sont trop sommaires, rédigés à la hâte par des greffiers. Beaucoup de ces documents sont illisibles. Beaucoup ont disparu et peut-être même certains n'ont jamais eu lieu. Car en décembre comme en janvier, on a tué quand même un certain nombre de personnes sans même les interroger. Et quantité de gens dont nous n'avons même pas les noms, ce sont les martyrs inconnus. Mais comme les 99, ils ont été tués en haine de la foi. En haine de la foi. Mais comment est-ce possible? Qui peut comprendre cela? On peut comprendre à la rigueur les représailles. Les représailles, la mort des prisonniers rebelles, ne sommes-nous pas en guerre? C'est la guerre civile, mais les guerres civiles sont les plus terribles. Les représailles, donc, on peut les comprendre. Mais comment comprendre qu'on est tué en haine de la foi? La Révolution n'a-t-elle pas proclamé la liberté des opinions religieuses? Cette liberté n'est-elle pas inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? La Convention nationale elle-même n'a-t-elle pas affirmé à plusieurs reprises son respect de la liberté des consciences? La liberté des cultes n'est-elle pas garantie par l'Assemblée nationale? Et pourtant, les documents sont là. Nous avons les interrogatoires, nous avons les sentences, et ces documents prouvent de manière irrécusable que les 99 victimes ont été tuées en haine de la foi. Et si on en a tué 99 en haine de la foi, il est bien probable que beaucoup d'autres, dont nous n'avons plus les procès, ont été tués pour la même raison. À la lecture de ces pièces, penchons-nous un instant, si vous voulez bien, sur ces quelques documents, ces pauvres documents, ces documents griffonnés bien souvent, rédigés tellement à la hâte. Penchons-nous sur ces textes, examinons-les un instant, et nous verrons très bien les véritables motifs de la sentence de mort. Les prêtres d'abord. Les prêtres, je vous rappelle qu'ils sont au nombre de 12 dans le groupe des martyrs. Ben, vous le savez, ce sont des prêtres réfractaires, c'est-à-dire des prêtres qui ont refusé de prêter le serment civique exigé par la loi, serment de fidélité à la constitution civile du clergé. Ces prêtres sont aussi des proscrits, des hommes traqués qui se cachent depuis des semaines, des mois, qui vivent terrés dans des trous, cachés par des personnes fidèles. En 1792, les prêtres fidèles, les prêtres réfractaires, avaient été condamnés à la déportation. On les avait priés de quitter le territoire. Et en 1793, on condamne les prêtres réfractaires à la mort au cas où ils se soustrairaient à la déportation. C'est-à-dire au cas où, refusant l'exil, ils préféreraient demeurer dans leur paroisse, dans leur pays, afin d'assister, afin de consoler les fidèles. Or, nos 12 prêtres sont dans ce dernier cas, et c'est pourquoi ils sont condamnés à mort. C'est parce qu'ils sont restés dans le pays pour consoler, pour assister les fidèles. On observe pourtant que lors de l'interrogatoire, il leur est reproché, on y revient toujours, et les juges ne peuvent pas s'en empêcher, il leur est reproché de n'avoir pas prêté le serment à la Constitution civile. Ce serment qui au départ était facultatif et qui est devenu peu à peu obligatoire, d'abord sous peine de prison et ensuite sous peine de mort. Par exemple, on demande à l'un de ses prêtres, le bienheureux Joseph Moreau, s'il a prêté serment. Réponse, que non. Demande, pourquoi ? Réponse, que l'Assemblée, ayant laissé la liberté des opinions religieuses, il ne l'a pas prêté parce que ça n'était pas la sienne. Voyez l'ironie discrète de ce Moreau qui fait allusion à la Déclaration des droits de l'homme, la liberté des opinions religieuses. Il sait bien ce que veut dire en réalité ce terme des opinions religieuses. La Déclaration des droits de l'homme avait laissé la liberté des opinions religieuses, mais non pas de la religion, et c'est tout à fait différent. Et vous savez que la foi n'est pas une opinion, c'est le Concile de Trente qui l'a dit, c'est le catéchisme romain qui l'a répété. Quant aux laïcs, les si nombreux laïcs du groupe, quel est leur crime ? Leur crime est d'avoir aidé les prêtres, de les avoir assistés, mais surtout d'avoir refusé d'assister à la messe des prêtres assermentés. Bien sûr, s'ils ont assisté à la messe des prêtres réfractaires, on va leur en faire grief. On va le reprocher, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est d'avoir refusé d'assister à la messe des prêtres assermentés. On demande à Marie Cassin, l'une de ses femmes, « Avez-vous été à la messe des prêtres réfractaires ?» Vous noterez ici le vouvoiement, il est rare. « Avez-vous été à la messe des prêtres réfractaires ?» Réponse, « Oui. » Et cela suffit. Le juge écrit en marge, « F ». À fusiller. L'assistance à la messe du prêtre réfractaire n'est sanctionnée par aucune loi. Le fait d'avoir refusé d'assister à la messe du prêtre assermenté n'est sanctionné par aucune loi. Mais les juges n'en condamnent pas moins à la mort pour cela. Pour eux, il s'agit d'un crime, et ce crime, dans leur langage, porte un nom. Il y a un mot spécial, un mot technique. C'est le mot aristocratie. Celui qui refuse d'assister à la messe du prêtre assermenté, c'est un aristocrate. Or, c'est amusant parce que tous ces aristocrates, ce sont de pauvres paysannes, des artisanes, des servantes. C'est le crime d'aristocratie, qu'on appelle encore, vous le savez, fanatisme. Crime de fanatisme. Ainsi, la sentence de mort contre Jeanne Bourigaud l'a dit, je cite, « suspectée d'aristocratie parce qu'elle n'allait point à la messe des prêtres assermentés ». Et la sentence contre Jeanne Goudon dit de cette femme, aimant les bons prêtres, fanatiques prononcés. On dit quelquefois aussi les vieux prêtres. Il aime les bons prêtres. Il aime les vieux prêtres. Comme nous l'avons écrit autrefois dans un petit livre, un refus est donc à l'origine des... Mais ce que les martyrs ont refusé, ce n'est rien moins qu'un schisme. En effet, la Constitution civile du clergé, du 12 juillet 1790, instaurait une Église nationale effectivement séparée de Rome. Cette loi interdisait aux évêques nouvellement désignés de solliciter du pape l'institution canonique, confirmation indispensable puisqu'elle donne à l'évêque juridiction sur son diocèse et parce qu'elle est le signe visible de sa communion avec le siège de Pierre. Les martyrs d'Avrillé sont donc des martyrs de l'unité. Des martyrs de l'unité catholique et par conséquent des martyrs de l'Église catholique romaine. Mais si nous considérons maintenant non plus l'intention des martyrs, mais celle des juges et des bourreaux, il est clair que ces derniers ne tuent pas leurs victimes pour cette seule raison qu'elles refusent le schisme. Il est clair que les juges et les bourreaux haïssent dans leurs victimes non pas seulement les opposants au schisme, mais aussi et tout simplement les chrétiens, les croyants. Et d'ailleurs, plusieurs sentences ne mentionnent pas du tout l'aide aux réfractaires, le refus d'assister à la messe du prêtre assermenté. Plusieurs sentences se contentent d'invoquer seulement comme motif de la condamnation à mort le seul crime de fanatisme. Fanatique pour la vie, à fusiller. Fanatique bête, à fusiller. Fanatique prononcé, à fusiller. Fanatique invinciblement, à fusiller. Fanatique au superlatif, je l'ai lu, à fusiller. Il est alors permis, en lisant cette liste, il est alors permis de penser que le mot fanatisme n'a pas ici le sens restreint d'aide aux réfractaires, mais celui beaucoup plus large d'attachement à la religion catholique. Et c'est d'ailleurs le sens que les philosophes du XVIIIe siècle, inspirateurs de la Révolution, l'entendaient, lui donnaient. Pour Diderot, pour Voltaire, pour Helvétius, maître à penser des Jacobins, le fanatisme était la religion catholique en ce qu'elle a, selon eux, d'irrationnel, de fou. Je pense qu'il y a chez les juges de la terreur des adversaires déterminés de la foi chrétienne, ou plutôt des personnes entraînées par la propagande philosophique à penser que la foi chrétienne représente un grave danger pour la société civile. Il n'y a qu'à voir leur acharnement féroce contre les objets de piété. Oui, j'étais beaucoup très frappé par cela. Lorsque ces pauvres gens arrivent devant les commissions de surveillance, les comités de surveillance, ces femmes qu'on vient de ramasser sur les bords de Loire, eh bien, on trouve souvent sur eux des objets de piété, une petite croix, une médaille, un scapulaire et quelquefois même un livre de piété. Et alors, on arrache ces objets, on les jette, on les piétine, on les jette au feu. Voici le résumé de l'interrogatoire, le 14 décembre 1793, de l'interrogatoire fait par Brutus Thierry d'une femme originaire de Mortagne en Vendée. La veuve d'Ilet, de Mortagne, près de Cholet, son mari Tisserand est mort avec les brigands. Elle a sur elle une bourse renfermant 7 livres, 3 sous, 6 deniers. Elle est nantie d'un chapelet mis par moi en morceaux, 1 livre saint jeté au feu. Elle mérite la mort. Elle mérite la mort. Elle la mérite pour sa culpabilité, mais aussi pour la menace qu'elle représente. Le fanatisme, selon Voltaire et selon la Révolution, n'est pas seulement un crime, c'est une anomalie, c'est une monstruosité dont on peut craindre qu'elle contamine la partie saine de la société civile. Peut-être avons-nous là la clé de cet acharnement à tuer, de cette hâte à exterminer ces victimes qui nous paraissent, qui vous paraissent si pitoyables et que l'on mène si facilement à l'abattoir. Ces êtres sans défense et innocents, ces femmes, ces jeunes filles, représentaient en réalité pour les révolutionnaires des monstres acharnés à leur perte, des porteurs de maladies mortelles, des êtres barbares et effrayants. C'est cet état d'esprit, ne l'oublions pas, qui a été répandu par la philosophie des Lumières. La foi catholique est dangereuse elle fait courir à la société un péril mortel, donc on peut dire, c'est bien en haine de la foi que les martyrs ont été tués, mais c'est aussi par peur de la foi. Ces martyrs chrétiens vont se comporter en martyrs chrétiens, se sont comportés en martyrs chrétiens. Nous allons les suivre maintenant dans le chemin qui les conduit à la mort, et nous les voyons tout à fait semblables à tous les martyrs chrétiens de tous les temps, tout à fait semblables aux premiers martyrs chrétiens, tels que nous les montrent les historiens ecclésiastiques et les pères de l'Église. En son traité Peri Martyrion, qui a été composé au début du IIIe siècle, Origène évoquait ce qu'il appelait la condition hivernale du martyr. Il voulait dire sans doute par cette expression la solitude et le dénuement des serviteurs de Dieu. Alors voici comment c'est l'hiver des martyrs d'Avrier. D'abord on les arrête généralement à la suite de dénonciations, puisque la délation est sous la révolution d'un usage commun. Puis c'est le premier interrogatoire, les prévenus comparaissent devant le comité révolutionnaire le plus proche, à Cholet, à Chalonne, à Angers. Ensuite, la garde nationale ou les gendarmes les conduisent dans les prisons. Commencent alors les jours de prison, les jours où l'on attend le dernier interrogatoire et la mort. La ville d'Angers n'est plus qu'une vaste geôle. Il y a jusqu'à 15 maisons de détention. 6 d'entre elles vont fournir des martyrs au champ des martyrs. La prison nationale, la citadelle, le calvaire, le bon pasteur, les pénitentes, le grand séminaire. La mortalité est effrayante dans ces prisons. Il y a quand même des choses qu'on ne retrouvera plus dans les prisons du 19e et du 20e siècle. On peut circuler, on peut se voir, on peut se visiter. On est très mal installé, la promiscuité est effrayante, mais enfin, il y a encore là un peu d'humanité, à tel point qu'il y a des tentatives d'évasion. Combien de temps durent et des tentatives qui ne sont pas réussies, mais qui auraient pu réussir? Par exemple, la jeune Rose Quenon, une servante qui veut aller retrouver sa mère, qui est enfermée dans une autre prison, alors elle essaie de faire le mur, mais elle tombe de l'autre côté, et on la ramasse. On la ramasse et on la renferme. Et combien de temps reste-t-on dans ces prisons? Bien, c'est très variable, rarement plus d'un mois, quelquefois seulement 2 ou 3 jours. C'est ainsi que René Caillot, incarcéré le 20 janvier et fusillé le 1er février. Et pourquoi si vite? Parce qu'il faut faire de la place. C'est plein, c'est trop plein. Alors, vient maintenant le jour du jugement. Le jugement à mort. Alors, comment cela se passe-t-il? Pour les prêtres, on met les formes. On met les formes, on les extrait de leur prison, la garde nationale les amène au bâtiment, au siège de la commission militaire, qui est l'ancien couvent des Dominicains, l'ancienne église des Dominicains, et l'interrogatoire est assez long, une 20aine de minutes environ, si je compte le temps de toutes les réponses. Le jugement qui est prononcé aussitôt après est rédigé de façon très correcte, très minutieuse, très légaliste, tous les attendus y sont. Alors pour les religieuses et pour les laïcs, la procédure est beaucoup plus expéditive. Les membres de la commission militaire se transportent dans les prisons mêmes, et là, ils se font amener les prisonniers au parloir pour les interroger. Alors on lit par exemple, dans les papiers de la commission militaire, à la date du 24 janvier, ce procès verbal, prison dite des filles du calvaire d'Angers, l'an 2e de la République française, le 5 pluvios à 10h du matin, conséquemment, vous remarquez le vocabulaire, conséquemment à l'arrêté de la commission militaire stationnée à Angers, Vacheron, membre de cette commission, et Baudron, membre du comité révolutionnaire de la même commission, se sont transportés ex-prison nationale dite des filles du calvaire et ont opéré aux interrogatoires des femmes, filles et enfants qui sont détenus ainsi qu'ils suivent. Alors on fait venir les prisonniers, les prévenus, les gendarmes les poussent dans l'escalier, car il faut descendre. Il y a plusieurs étages, en particulier à la prison du Calvaire. On les fait descendre dans le parloir très étroit où siègent les commissaires. Alors certains interrogatoires sont assez longs, mais en général on va très vite, 2 ou 3 minutes par personne. On expédie ça en quelques mots. Et les détenus sont condamnés par l'apposition de la lettre F, mise en marge du cahier. D'ailleurs, un certain nombre d'interrogatoires, je vous le disais tout à l'heure, ont disparu. Mais malgré la brièveté de ces interrogatoires, on peut dire que presque toujours, les victimes, les prévenus, ont l'occasion de faire leur confession de foi et de proclamer leur fidélité à l'Église. Le refus de la constitution civile du clergé. Je prends l'exemple de Rosalie Duverdier de la Sorinière. Interrogatoire fait à Cholet. Lors de son premier interrogatoire, le 20 janvier 1794, on lui pose la question suivante. Alliez-vous à la messe des prêtres réfractaires lorsqu'ils ont été rentrés? Oui, j'y ai été. C'est une confession de foi très simple. Ce n'est pas un grand discours. Elle se dit en quelques mots. On dit oui si le juge demande « Alliez-vous à la messe des réfractaires ?» On dit non. Et si on demande « Avez-vous été à la messe du prêtre assermenté ?» On dit non aussi. On dit oui, on dit non, un mot ou l'autre. Mais ces mots ont une grande valeur. Ils représentent la confession de foi publique et extérieure, élément essentiel selon les pères de l'Église, selon les pères grecs, pour la justification du martyr. La confession de foi est très importante. D'ailleurs, le catéchisme romain qu'avait appris dans leur enfance beaucoup de ses victimes dit, le pasteur enseignera également que celui qui dit « je crois », exprimant par cette parole le sentiment intime de son esprit, qui est l'acte intérieur de la foi, ne doit point se borner à cet acte de la foi, mais qu'il est tenu de manifester au dehors, par une profession ouverte, les sentiments qu'il porte dans son cœur. Mais l'interrogatoire s'achève, le greffier hâtivement rédige la sentence, encore quelques instants, une demi-journée, un ou deux jours au plus, et les voici envoyés à la mort. Alors ceux qui sont destinés à la guillotine sont d'ordinaire jugés le matin et exécutés, Vacheron disait, expédiés dans l'après-midi. C'est le cas, par exemple, de René et Jean Legault, guillotinés le 1er janvier 1794 à 4 heures de l'après-midi. L'échafaud est installé place du ralliement, dans l'alignement des rues Cordel et des Deux Haies. Et nous avons sur ces exécutions le témoignage de l'abbé Simon Gruget, curé de la Trinité, lequel, caché dans une maison de la place, pouvait tout voir. L'instrument fatal, écrit-il, était assez près de moi pour que je puisse non seulement le voir, mais encore donner l'absolution à tous ceux qui étaient condamnés à mort. J'entendais les cris, ou plutôt les hurlements qu'on faisait à chaque tête qui tombait, et je voyais les chapeaux qu'on levait en l'air au cri chéri de « Vive la République » en signe d'approbation. Les fusillés, je vous rappelle qu'il y a parmi eux 84 martyrs, sont liés et conduits à pied jusqu'au parc de la Haie aux bons hommes pour y être fusillés. Nous avons le témoignage d'un gendarme, Pierre Chambon, qui témoignera en octobre 1994. Pierre Chambon, gendarme, déclarera, je cite, « Étant au comité, occupé à lier des prisonniers pour les conduire à la fusillade, j'ai attaché par trois fois, par ordre du commissaire, un jeune homme de 13 ans et demi. Les prisonniers sont garrottés, ils sont liés, la chaîne, comme on dit, c'est la chaîne des bagnards, c'est le mot qu'on employait pour désigner les bagnards. La chaîne se forme. Elle est assez longue. Elle est assez longue. Songez que le 1er février, 400 personnes en faisaient partie. Au milieu de la chaîne, des chariots où l'on a jeté les uns sur les autres les condamnés trop faibles pour marcher. À la prison du Calvaire, les moniales du Calvaire montraient ces dernières années la fenêtre par laquelle on jetait les malades dans la charrette. Ces charrettes, ces voitures étaient souvent pleines de 15, 20, 30 même hommes et femmes expirants. Les plus malades étaient mis dessous et arrivaient souvent morts sur le terrain au bois d'Avrillé. Et un témoin nous dit, les têtes de ces malheureux sortaient des voitures et ils criaient « Tuez-nous !» Et tous faisaient la même demande en poussant des cris horribles. Enfin, les juges suivaient le cortège avec accompagnement de tambours et de musique. Et cette pompe martiale ne manque pas de nous étonner. Elle ajoutait à l'horreur de l'exécution. Il y a des tambours à toutes les exécutions révolutionnaires ou un grand nombre. Même aux mitraillades des Brotteaux à Lyon, on faisait donner la musique. Alors pourquoi? Pourquoi solenniser ainsi la marche au lieu de la mort? Pourquoi ne pas cacher tout cela? Pourquoi ne pas conduire les victimes de nuit au lieu d'exposer au public en plein jour et au milieu d'un appareil festif ce pauvre troupeau de condamnés? Eh bien, parce que les crimes Les crimes de ces malheureux sont immenses. La solennité doit être à la mesure du crime. Et c'est pourquoi on fait venir ces musiques, c'est pourquoi les juges revêtent leurs meilleurs habits, quelquefois leur chapeau à panache. Et l'un d'eux déclara, l'expiation ne saurait être trop publique, l'expiation des crimes. Les pères de l'Église que je citais tout à l'heure disent encore à propos des martyrs que le diable est leur grand adversaire. Il essaie d'abord de les persuader de renoncer au Christ. Il voudrait, dans les derniers moments, les forcer, les contraindre d'y renoncer en les accablant de ses tentations. Eh bien, de fait, l'historien constate que plusieurs des martyrs, dans les derniers instants de leur vie, furent tentés. Par exemple, au lieu de commander, je prends un des exemples, au lieu de commander le feu, au moment de la fusillade, l'officier s'approche des deux religieuses, Marie-Anne Vaillot et Odile Baumgarten, ces deux religieuses, ces deux filles de la charité qui n'ont pas prêté le serment liberté-égalité. Il leur propose de les épargner. Il leur propose même de dire qu'elles ont fait le serment. Je prends sur moi de dire, mes sœurs, que vous l'avez prêté et je vous donne ma parole qu'il ne vous sera fait aucun mal. Mais les deux sœurs repoussèrent la tentation. « Citoyen, répondit l'une d'elles, Marie-Anne Vaillot, non seulement nous ne voulons pas faire le serment, mais encore, nous ne voulons pas passer pour l'avoir fait. » Et vous connaissez aussi l'histoire, ça fait partie, enfin, ce sont des histoires que tout le monde connaît sur les martyrs que les vitraux de la chapelle d'Avrillé illustrent, émus par la beauté de Marie de la Sorinière. Un officier lui propose de lui sauver la vie en l'épousant. Oui, c'est une chose qui se faisait. Et nous en avons plusieurs exemples au moment de la Révolution. C'est encore un de ces restes d'humanité, comme la convivialité, si je puis dire, des prisons. Donc un officier s'approche de lui sauver la vie en l'épousant. « Sois mon épouse, je te sauve la vie. » « Mais, répond-elle, sauveras-tu aussi ma mère et ma sœur ?»« Non, dit l'officier, c'est au-dessus de mes forces. »« Eh bien, réplique-t-elle, laisse-moi mourir, je préfère le martyr. » Et puis enfin, il y a cette histoire dramatique de Madeleine Saillant d'Épina, une jeune fille de 24 ans, qui fait une crise de désespoir au moment où on s'apprête à la garrotter, à la lier, pour l'emmener au champ des martyrs. Alors elle fait une crise de désespoir. Elle crie « Qu'on me tue, qu'on me massacre ici, mais je ne veux pas qu'on m'attache pour me conduire avec les autres à la mort. » Et sa mère, qui est avec elle, condamnée elle aussi, la console et réussit à lui faire accepter son sort. Et au bord de la fosse, Madame Saillant d'Épina donnera aux soldats ses bracelets pour que ses filles, car il y en a deux, dont elle redoutait encore la faiblesse, soient fusillées les premières et elle ensuite. Et tout le monde connaît l'histoire. Il y a de nombreux descendants de cette héroïque martyr. Tout le monde ici, dans cette salle, tout le monde connaît l'histoire de Perrine Turpeau, à qui l'on avait suggéré de se sauver en se disant enceinte et qui refusa de faire ce mensonge. Et puis les anciens théologiens du martyr nous apprennent encore que les serviteurs de Dieu se distinguent toujours par leur impassibilité. C'est le mot qu'ils emploient, leur impassibilité. Et nous vérifions bien cela chez certains de nos martyrs, ceux au sujet desquels nous avons des témoignages précis. C'est ainsi que la sœur Marie-Anne Vaillot chante les litanies de la Vierge, reprises par toute la chaîne. Et c'est ainsi que Marie-Louise de la Sorinière, dite aussi la belle Lisette, et qui a une voix divine, dit-on, chante sur tout le parcours. Elle chante les psaumes. Et on dit qu'elle chanta aussi ce cantique populaire du Père de Montfort, déjà chanté par un prêtre nantais, l'abbé de Mérac, lors de son transfert de la prison nantaise des Petits Capucins au bateau de la Gloire le 24 octobre 1793, et que chantera à nouveau la veuve Boulet le 27 juin 1794 à Laval avec son dernier verset. Ce cantique du Père de Montfort, « Je mets ma confiance, Vierge en votre secours, « Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. » Et le dernier verset avait été modifié, adapté à la circonstance, « Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Mais voici le lieu du supplice, voici les fosses béantes. Alors, les condamnés supplient qu'on leur donne un instant, et ils s'agenouillent dans le silence pour faire le sacrifice de leur vie. Impassibilité donc, sans doute, sérénité sûrement, et ce sont des spectacles étonnants et qui ne peuvent s'expliquer, l'historien ne les expliquera pas, qui ne peuvent s'expliquer que de façon surnaturelle. Origène dit que le martyr, avant même de rendre le dernier soupir, commence à jouir de la vision béatifique. En somme, si l'on en croit Origène, les condamnés au bord des fosses voyaient déjà, vivaient déjà de la vie éternelle. Et le même théologien, d'ailleurs, appelle baptême du sang la mort douloureuse des martyrs. Les fosses que l'on a préparées la veille, une équipe de 50 hommes avait été réquisitionnée pour cela, sont de longue de 5 mètres environ, de quoi aligner une vingtaine de personnes sur le bord. Nous le savons par les fouilles de 1867. Alors, quand la chaîne arrive, on détache une vingtaine de condamnés, on les place tout au bord, on ne les dépouille pas de leurs vêtements. Il semble que le dépouillement se fasse après. Les fusilleurs se placent par derrière, entre eux et le reste de la chaîne, et les fusillent presque à bout portant. Les victimes tombent dans la fosse, alors posément, les soldats rechargent leurs fusils, s'avancent et tirent une seconde salve sur les corps entremêlés. Et quand la fusillade est finie, à coups de sabre, ils hachent les victimes et les mettent en morceaux. Et pendant ce temps-là, les autres condamnés, à quelques pas, à quelques mètres de distance, attendent leur tour et regardent cet affreux spectacle. Et peut-être, lorsque les condamnés étaient nombreux, y avait-il plusieurs fosses ouvertes à la fois, plusieurs fusillades simultanées. Quoi qu'il en soit, chaque massacre ne pouvait pas durer moins de 2 heures. Alors c'est fini. Les revendeuses passent, elles ramassent les vêtements qu'elles vont monnayer. Le fossoyeur passe et jette quelques pelletées de terre. Les juges et les soldats rentrent à Angers. On recommencera demain. C'est fini. Les martyrs ont vécu jusqu'au bout. Ben, leur hiver, ils sont morts en martyrs chrétiens, mais ils sont morts en martyrs chrétiens parce qu'ils avaient vécu en chrétien. Nous savons assez bien, et il n'est peut-être pas inutile de le rappeler, quel christianisme les avait fortifiés, surtout dans ces régions de l'Ouest qui semblent privilégiées au XVIIIe siècle. Ils avaient été baptisés le jour ou le lendemain de leur naissance. Vers l'âge de 6 ans, ils avaient suivi le premier catéchisme, celui qui préparait au sacrement de pénitence. Et puis à l'âge de 12 ans, ils avaient reçu l'Eucharistie pour la première fois. Et cette première communion avait été préparée par un second catéchisme, plus détaillé. Tous les dimanches de leur vie, ils avaient assisté à la messe de paroisse, le matin. Et l'après-midi, ils retournaient aux vêpres et au salut du Saint-Sacrement. Et ce n'était pas quelques-uns, c'était tous. On leur avait inculqué la dévotion au chapelet, la dévotion au rosaire, la dévotion au Sacré-Cœur. Cette belle dévotion si répandue au XVIIIe siècle et que beaucoup d'apôtres ont répandue. Cette belle dévotion au Sacré-Cœur qui fait désirer de se sacrifier pour Jésus-Christ. Ils avaient lu souvent et médité dans les petits manuels de dévotion au Sacré-Cœur, répandus à profusion dans les campagnes, cet exercice de réparation qui commence par ces mots. Mon cœur s'est préparé à souffrir toutes sortes d'opprobres et de tourments. Ils étaient donc préparés. Préparés à la terrible épreuve qui fondit sur eux, non pas préparés humainement, car ils avaient vécu dans un siècle de paix et de, même pour les plus pauvres d'entre eux, de douceur de vivre, mais préparés surnaturellement dans leur vie intérieure et spirituelle. La Révolution, et ce n'est pas à tort qu'on l'appelle la Grande Révolution, a fait à ses ennemis, ou tout au moins à ceux qu'elle considérait comme des fanatiques, l'honneur de les tuer. Mais ils étaient préparés à cet honneur. Avant de finir et de quitter les bienheureux martyrs et toutes ces victimes qui les ont accompagnés dans la mort, bien nous leur rendrons une dernière visite. À la haie aux bons hommes, au lieu de leur supplice, nous sommes à la fin du mois d'avril 1794. La dernière fusillade a eu lieu le 16 avril. Le silence plane sur ces lieux désolés. La terre des fosses n'est pas encore bien tassée. Parfois, à la tombée du jour, on voit s'approcher un homme, une femme, un enfant, qui s'agenouille et qui prie. Bientôt, de pieuses mains vont planter une croix, déposer des fleurs. L'hiver est fini. C'est le début de la belle saison. Les martyrs ont achevé leur hiver. Ils jouissent maintenant de l'éternel été. Je vous remercie.